Bon, l'adoption du plan d'austérité par le Parlement grec. On va revenir sur les émeutes. Vous avez vu nécessairement toutes ces images à la télévision, ces bâtiments, ces commerces en feu. Dominique Régnier est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Fondapol, hein, auteur de Populisme, la pente fatale. Et puis, vous avez été récompensé par deux prix, hein, quasiment coup sur coup. Le prix du livre politique et le prix des députés. Ça commence à faire beaucoup, baisse du salaire minimum, coupe dans les retraites, licenciement dans la fonction publique, le traitement est lourd. C'est grave, hein. C'est grave ce qui se passe là-bas. On voit la population grecque à qui on demande en permanence toujours plus, Dominique Régnier.
Oui, c'est très grave, c'est très compliqué pour les Grecs, très douloureux. Il faut quand même rappeler que c'est un problème qui vient de loin, qu'il y a 40% d'économie parallèle, donc la richesse des Grecs est sous-estimée de 40%, et la situation est, je dirais, en dehors de réformes structurelles, sans issue, hein. C'est ça d'ailleurs qui me paraît très frappant, c'est que on voit bien aujourd'hui comment des partis périphériques comme le Parti communiste grec, il y a une grande tradition, hein, de Parti communiste en Grèce, ou le Laos, qui est le parti d'extrême droite, qui était au gouvernement récent, précédent, dans le gouvernement de l'Union nationale, comment ils vont espérer en tirer profit aux élections d'avril, j'imagine fustigeant l'Europe, les marchés, etc. Mais, and so what? Les Grecs peuvent voter pour eux, donner la majorité à l'un à l'autre, ou bien à une coalition de populistes, on ne sait pas, mais ils ont besoin de cet argent, donc ils doivent passer par les réformes, elles sont pas agréables, elles sont de différentes natures, mais il n'y a pas beaucoup d'autres chemins.
Oui, ce qui s'est passé en Grèce, Dominique Régnier, est-ce que ça pourrait faire tache d'huile dans tous les pays à qui on impose comme ça des plans d'austérité plus ou moins forts?
Je crois que c'est en gros la tendance qui se dessine, en particulier dans l'Europe du Sud, cette Europe qui n'a pas vu venir des difficultés qui ont été anticipées par l'Europe du Nord, je suis un peu schématique, mais en gros c'est ce qui s'est passé depuis 10-15 ans, l'Europe du Nord, Allemagne en tête, mais on va arrêter de citer l'Allemagne, a anticipé cette évolution démographique, financière, et a fait toute une série d'efforts. Rappelez d'ailleurs précédemment à votre antenne, par exemple, une perte, c'était dit à l'instant, hein, du pouvoir d'achat pour les Allemands de 100 euros par mois depuis 10 ans, donc voilà, c'est beaucoup.
Voilà. Pendant ce temps-là, tout ce mouvement pour réclamer des hausses de salaire. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas contestés par le gouvernement.
Les Grecs ont vu leur salaire augmenter de 30% pendant le même temps. Donc voilà, c'est un peu le tour des Grecs ou du Sud. Hein. Maintenant, c'est des réformes qui ne peuvent pas être réussies s'il n'y a pas au moins trois conditions de rempli. Une bonne explication, donc la justification de l'effort, un partage équitable de l'effort, pas simplement les riches et les pauvres, mais aussi les statuts, les retraités, les inactifs, les fonctionnaires aussi. Et puis troisièmement, une perspective, une ligne de fuite. On va vers où? On va le faire comment? Ça va durer combien de temps?
Oui, ça va durer combien de temps? Et ça commence à s'agiter. Vous avez parlé de l'Europe du Sud, Dominique Régnier. On voit en Espagne, le gouvernement qui a adopté également un plan d'austérité, c'était vendredi. Hein. On voit les deux principaux syndicats qui appellent à des manifestations dans tout le pays le 19 novembre, c'est-à-dire le 19 février, c'est-à-dire à la fin de la semaine. Ça va commencer comme ça à faire tache d'huile, et on voit également à la veille de l'adoption, eh bien, une prochaine réunion au sommet d'un sommet européen le 1er mars, hein, la veille, tous les syndicats européens qui vont se donner rendez-vous à Bruxelles. Qu'est-ce que ce mouvement, il va déboucher sur quoi au final, là?
Alors au plan national, il y a peu de perspectives. Il faut rappeler que si les syndicats ne font pas ce type de mouvement, ils sont débordés par une base qui ensuite devient incontrôlable et radicale. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour eux aussi de gérer une telle situation, c'est évident. En revanche, au niveau européen, ça peut produire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'effets favorables à l'attendre aujourd'hui, mais il est certain que si on peut avoir une action sociale ou syndicale au niveau européen, d'une part, ça donne de l'Europe une autre image, ensuite, ça donne une perspective aux salariés qui nationalement peuvent se sentir isolés, perdus ou trop faibles. Et puis je crois que ça peut réellement introduire une contrainte qui est parfois absente des réflexions qui ont lieu à Bruxelles ou entre les acteurs politiques et financiers qui ne sont pas, je crois, des monstres froids et qui savent ce qui se passe, mais qui peuvent être, je dirais, mieux informés et mieux inspirés s'il y a une présence syndicale à leur côté.
Donc ça veut dire que s'il y a un mouvement syndical uni à l'échelle européenne et qui arrive vraiment à émerger pour une fois, j'allais dire, Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de cap de la part des différents gouvernements de Mikrenia?
Alors, avec une limite, hein, aussitôt, parce que l'argent qu'on va donner, parce qu'ils en ont besoin aux salariés et aux Grecs, il va être pris dans la poche du salarié allemand. Donc, il y aura pas de...
Ça sera pas.
Voilà, c'est compliqué. Hein, il faut que les efforts soient partagés par toutes les nations. Aussi, la justice, elle est là. Elle n'est pas simplement en Grèce, entre les riches et les pauvres, l'Église orthodoxe et les autres, les fonctionnaires et le privé, mais aussi entre les Grecs et les Allemands.
D'où la nécessité d'expliquer ce que vous disiez tout à
l'heure. Absolument. Il n'y a pas de trésor caché, il n'y a pas un puits sans fond dans lequel on peut puiser pour... voilà. C'est des réformes structurelles, il faut que les politiques les portent. Je crois que ce sera une phase quand même très compliquée. Et c'est dans ce contexte-là que se dérouleront les élections nationales, hein, celles qui auront lieu en Grèce en avril,
dans deux mois,
mais aussi chez nous.
Chez nous en France.
Ou encore en Autriche à l'automne prochain.
Bien entendu. George Soros, hein, qui préconise de ranimer la conjoncture dans les États européens en crise par l'injection d'argent plutôt que de forcer les gouvernements à réaliser des économies. Sinon, on va répéter les erreurs qu'a connues l'Amérique de 1929, de Mick Rainier. C'est une piste, celle-là?
Oui, moi je crois que c'est une piste absolument essentielle que de combiner des réformes structurelles extrêmement efficaces, voire une potion amère, mais efficace, en particulier pour les Grecs, avec un grand plan européen. Il y a des propositions qui sont faites par M. Lombard sur qui imagine un grand plan, et qui, je crois, a raison, un grand plan d'investissement de 300 milliards porté uniquement pour les entreprises, pas un centime de contribuables, pour rééquiper l'Europe en matière de numérique, de transport.
À l'ancien patron de France Télécom, voilà, je cherche Didier Lombard.
Ouais. Didier Lombard, ancien patron de France Télécom, qui a écrit un livre à ce sujet que j'ai lu. Moi, je peux juste témoigner comme lecteur. C'est un grand programme qui répond à ce type d'attente et qui donnerait aux Européens la perspective de sortie. Une croissance possible, une modernisation de notre appareil industriel, technologique, communicationnel, une ligne de fuite heureuse, et pas simplement des efforts sans horizon, ce qui ne sera pas accepté. Et là, nous irons vers des crises, si c'était le cas, vers des crises politiques extrêmement graves.
Voilà, en effet, donc vous n'excluez pas des crises politiques graves aussi, avec des gouvernements renversés, des mouvements extrémistes qui pourraient peut-être pas prendre le pouvoir, mais en tout cas émerger dans les différents parlements.
Même prendre le pouvoir.
Prendre le pouvoir aussi.
C'est possible en Autriche, qui n'est pas menacée économiquement, mais plutôt politiquement. C'est possible en Grèce. Le Laos est un parti d'extrême droite extrêmement dangereux. Hein. Le parti communiste grec est incapable de gouverner. Donc, c'est ce type de parti, quand ça prend le pouvoir à la faveur d'une crise, échoue comme tous les autres, simplement accepte moins que les autres la défaite et du coup devient plus sévère, je dirais, voire plus méchant. Et on sait que la Grèce, sans les stigmatiser, a une tradition de dictature qui n'est pas ancienne.
Bien entendu, qu'on connaît, dont on se souvient évidemment. Je rappelle d'ailleurs votre livre, hein, Populisme, la pente fatale. En France, on s'intéresse un tout petit peu à la France. Dominique Régnier, directeur de Fondapol, le rapproche. Hein, c'est Nicolas Sarkozy qui le disait dans le Figaro magazine. Il a inauguré tout à l'heure à Issy-les-Moulineaux, juste à côté de BFM Business, le nouveau siège de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il est évidemment très pisté, très surveillé par les dizaines, pour ne pas dire plus, de centaines de journalistes qui attendaient un geste. Un indice, il a dit, si vous cherchez un indice, demandez aux gendarmes là, qui sont tout autour de moi. Bon, on n'a rien su, évidemment. Il doit se révéler quand? Qu'est-ce qu'il doit dire? Comment doit se prendre? À quoi doit ressembler sa déclaration de candidature de Mick Rainier?
Il a déjà pris quelques décisions, hein, dans l'interview du Figaro Magazine. Il y a déjà un angle qui a été pris. Moi, je dirais que s'il veut être réélu, il doit parler à un électorat que je qualifie de central, pas nécessairement centriste, mais central, qui représente selon moi de 20 à 25% des Français, et auquel il ne s'est pas beaucoup adressé depuis pas mal de temps maintenant, qui était en gros un électorat qui avait voté Bayrou en 2007, qui a fait, à mon avis, l'élection de Nicolas Sarkozy, beaucoup plus que l'électorat de Jean-Marie Le Pen, vers lequel il a tendance à se tourner peut-être trop souvent. Et donc, rééquilibrer son discours, aller vers la projection, la France dans la mondialisation, il peut l'expliquer, puisqu'il la gouverne tous les jours, avec de grands projets qui donnent le sentiment qu'on est tiré vers le haut, et non pas dans des conflits, dans des querelles un peu recuites entre nous, qui donnent le sentiment que l'on est plutôt rétracté.
C'est quoi cet électorat, alors? On peut le qualifier de... Par quoi?
Des classes moyennes, classes moyennes supérieures, CSP+, très intéressées, très informées. C'est un peu votre, en tout cas,
auditoire,
assurément. Ça va au-delà, mais c'est aussi votre auditoire. Ce sont des personnes qui savent entendre les arguments, même l'explication de contextes difficiles. Qui peuvent souhaiter qu'on s'occupe de questions comme l'immigration ou la sécurité, y compris de manière efficace, mais qui n'apprécient pas les termes dans lesquels parfois on traite ces problèmes-là, qui préfèrent plus de modération et de technique sur de tels sujets.
Donc... Donc sa déclaration de candidature, elle devrait prendre quelle forme au final, mercredi, jeudi, dans quel contexte à votre avis, Dominique Reynier?
Moi je crois que pour le président en exercice, une déclaration qui, dans la forme, donnera le sentiment aux Français qu'il est là pour les rassembler dans un projet dynamique, sera de nature à satisfaire les attentes.
Eh bien, on verra ça donc d'ici quelques jours, quelques heures maintenant. Donc Dominique Reynier à la tête de Fondapol, donc double lauréat du prix du livre politique et du prix des députés. Merci, à très bientôt, j'espère, dans le Grand Journal sur BFM Business. C'était encore une fois très intéressant.
Merci.